chanson.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et pour commencer la semaine, on descend dans la rue avec le street art. Longtemps, les graffitis, les tags, les fresques ou encore les pochoirs sur les murs dans les villes ont été considérés comme du vandalisme. Mais cette époque est bien révolue, c'est la consécration de l'art de la rue. Avec des festivals dans le monde entier, des galeries dédiées et des musées aussi qui s'ouvrent à Paris en octobre dernier. On a découvert le premier anti musée d'art urbain AR42 et de pair, donc ça va de pair avec cette reconnaissance du mouvement. Du coup, certaines œuvres murales se négocient aujourd'hui à prix d'or. Alors comment expliquer le succès de ces artistes alors que ces peintures vivaient à la lisière de l'illégalité? Quelle différence entre graffiti, art, street art et comment l'art urbain est devenu une culture à part entière et comment ces peintures ont transformé nos villes? On attend vos commentaires, vos questions au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors, on va passer du temps donc pour brosser ce panorama du street art avec les différents mouvements. On va revenir sur l'histoire aussi. Et je vous le dis tout de suite, je vais me sentir un peu seule parce que c'est pas très féminin tout ça. Avec nous deux hommes dans le studio, je commence avec Lokis à ma droite. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste, vous êtes tombé dans le graffiti à 15 ans. On peut dire ça?
Oui. Enfin, dans la pratique à 15 ans, mais dans la connaissance un tout petit peu plus tôt.
Et vous avez publié Graffiti Expression Manifeste chez Akan.
Azan.
C'est un portrait de 15 portraits d'artistes du continent européen. Et on les voit à l'œuvre, donc avec leurs dessins préparatoires. On les voit travailler dans la rue. On voit le résultat. Vous allez nous parler de ce travail. Nous avons au téléphone un deuxième artiste. C'est Zeus en personne. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes en direct de Berlin. Donc Zeus, ça s'écrit Z-E-V-S, mais ça se prononce Zeus.
Absolument.
Donc le dieu des dieux, c'est pas un peu dur à porter?
C'est le dieu du RER en fait. C'est un nom qui est issu d'un accident qui a failli avoir lieu en 1992 avec un RER. Donc ça a été plutôt... une chance de ne pas me faire écraser par ce RER et de pouvoir tracer ma voie artistique autour de ce nom.
Ah, si vous avez construit votre nom autour de cet accident.
J'ai construit mon œuvre. J'ai construit mon œuvre, disons, autour de ce nom suite à un accident qui a failli avoir lieu dans le RER.
Alors, vous exposez actuellement au château de Vincennes, ça s'appelle Noir et Clair jusqu'à la fin du mois. Également au musée de Séoul, à côté de l'art très traditionnel de la calligraphie.
Oui, absolument.
Avec nous également Nicolas Logiro-Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Militant de la reconnaissance du street art, c'est comme ça que vous vous définissez?
En tout cas passionné oui. Depuis une quinzaine d'années.
Ouais, vous faites entrer l'art de la rue donc dans le musée puisque vous avez créé ce drôle de lieu, l'école, Art 42, dans l'école 42 qui est une école informatique au départ de Xavier Niel.
Oui, c'est ça. C'était l'idée aussi de... Les musées déploient tellement d'énergie et d'argent pour faire venir les jeunes dans leur cœur que l'idée, ça a été aussi de provoquer un peu et de dire on va mettre l'art au cœur des jeunes. C'est une façon de gagner du temps et d'être plus impactant. Donc c'est ça qui était intéressant. Au cœur de cette école, avec 3000 étudiants issus de tout milieu, vous voyez.
C'est une école et c'est ouvert au public. On peut voir les œuvres.
C'est ouvert deux fois par semaine. On a deux créneaux d'ouverture parce que l'école, sinon, vit H24. Ouais.
Vous êtes également directeur de l'école ICAR, de l'Institut des carrières artistiques et président fondateur de l'association artistique Réseau et collectionneur d'art urbain. Alors, en tout cas, comment ce street art est devenu une valeur sûre de la création contemporaine et de son marché? On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Et on devrait aussi avoir Docta, c'est un graffeur sénégalais qui organise le festival Festigraph à Dakar. J'espère qu'on l'aura dans 30 minutes. Il avoue être un peu malade. Alors, beaucoup de messages arrivent sur Facebook. On a Tidiane de Thiès au Sénégal qui nous dit qu'il aime voir tous ces graffitis qui se déploient. Beaucoup d'imagination, c'est vraiment de l'art. Et pour lui, ça participe à l'embellissement de nos villes. Jacques à Antananarivo dit que peindre ou décorer les murs des villes sans autorisation des voisins est sanctionné sévèrement à Madagascar. Et je pense que pourtant, bah, qu'il n'y a pas de mal à faire ça, puisque ça donne, quand ça donne au moins une bonne idée du quartier. Stéphane, il y a Joseph aussi de Kananga qui nous dit que le street art est vraiment un moyen d'expression, mais on peut déplorer des fois la présence d'obscénité parmi ces graffitis. Et Anne de Dakar, elle nous dit pourquoi peindre sur des murs qui ne vous appartiennent pas ? C'est une question alors pour vous, Lokis. Et à mon avis, on se doit de. Elle pense qu'il faut passer par une exposition dans une galerie en bonne et due forme si on se prétend artiste. C'est un peu aussi tout le débat du jour. Au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, qui au hasard d'un coin de rue n'est pas tombé sur un graffiti, des lettres colorées sur des rames de train ou dans des tunnels, des pochoirs aussi qu'on peut voir à Paris, de mystiques par exemple, la plus ancienne, ou des silhouettes étranges. On a cette silhouette d'un homme à la peinture blanche qui se promène souvent sur les murs aussi à Paris. L'art est vraiment descendu dans la rue et ça change la figure de la rue. Alors, on va commencer par cette question de Anne qui nous dit pourquoi peindre alors sur des murs qui ne vous appartiennent pas, Lokis ? C'est une question pour vous.
Bon, là, ce que moi je remarque, mais je comprends, parce que RFI, c'est une radio qui est très orientée sur l'Afrique. Donc, le contexte de l'Afrique est très différent d'un contexte parisien, d'un contexte de banlieue parisienne. Je ne suis jamais allé en Afrique, je suis encore moins allé à Dakar. Je ne peux pas vraiment vous donner une vraie réponse par rapport à ça. Après, on peint sur les murs qui nous sont offerts. Et c'est aussi intéressant que parfois, on dépasse l'espèce de carcan de la propriété privée ou de la propriété municipale et que des égaux s'affirment et s'émancipent réellement au niveau de leur liberté. Donc, pour moi, c'est pas choquant en soi. Après, je vais pas parler à la place de gens qui pratiquent réellement cette forme de vandalisme. C'est souvent, étrangement, moi qui l'ai assez peu pratiqué, des gens avec lesquels je me sens proche, parce que je trouve qu'ils ont encore une virulence et une force d'expression qui est très grande. Et en fait, par exemple, à Paris, c'est donc tout ce mobilier urbain, ce côté sécurisé me fait, et ce côté, par exemple, cet affichage publicitaire très lourd, peut me faire beaucoup plus peur qu'un mur criblé de tags.
Vous pouvez vous sentir agressé.
Voilà, criblé de tags, c'est comme voir une manifestation dans la rue, c'est une expression démocratique pour moi. Donc,
alors,
c'est
cette expression, vous l'utilisez, vous l'avez beaucoup utilisée, Zeus, vous êtes un des précurseurs, en tout cas, du street art en France. Pourquoi alors vous vous êtes attaqué au mur ?
Ah, alors, disons que j'ai débuté mes pratiques étant presque enfant. Je pense que il y a une éducation qui s'opère, mais qui peut passer aussi par la rue et par des pratiques picturales dans la rue. Alors, je vais prendre exemple sur une de mes premières années de pratique de graffiti. Je me suis fait attraper, en fait, par des policiers. Je suis allé au commissariat de police et les policiers ont demandé à ce qu'on retourne sur les lieux, entre guillemets, du crime. Les lieux multiples. Donc, on a recréé la constellation d'endroits où j'avais établi mes tags.
Ils vous ont suivi à la trace comme ça ? Ouais.
Voilà, on est retourné sur tous ces lieux. Alors, il y avait des camions, il y avait des portes cochères, il y avait des... Et finalement, j'ai décidé d'aller effacer mes traces, donc d'aller effacer tous ces graffitis de façon à ce que les propriétaires ne portent pas plainte. Ça a fonctionné et en fait, d'une manière un peu plus prolongée, ça a probablement donné cette idée de travailler par la suite, donc 10 ans après, avec un Karcher pour réaliser des graffitis qui... enlève la pollution en ville, donc des graffitis qui nettoient la ville. J'entends par là, donc avoir travaillé avec les outils de la propreté de Paris afin de...
Vous avez recréé donc des lettres avec ce Karcher, en karcherisant des murs sales, vous avez recréé donc ces lettres propre, on va dire. Ouais. Vous avez inversé le...
Dix ans plus tard, j'inverse en fait le procédé par mimétisme, en fait, utilisant le même outil que les nettoyeurs en ville, utilisant les mêmes combinaisons, j'ai réalisé des graffitis propres sur les murs de Paris.
Des graffitis propres.
Continuer de faire de, pour continuer de, d'être créatif en ville. Ouais. Il s'agit en fait de faire vivre la ville, d'être créatif et de s'exprimer surtout.
Nicolas Logiro-Lasserre, c'est vrai qu'on va peut-être revenir aux origines, puisque vous êtes aussi, grâce à vos collections d'art urbain, vous connaissez un peu comment tout ça s'est né. Mais au départ, c'est vraiment un art des pauvres, quand même, dans leur quartier, une manière de marquer le territoire.
Oui et non, les origines sont multiples, mais d'abord je voulais saluer Zeus parce qu'on se parle depuis tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de se dire bonjour, donc je pense que Loki c'est pareil, il a envie de te saluer, donc salut.
Bonjour Nicolas, bonjour Loki, et je salue également les auditeurs, bonjour à tous.
Surtout. Alors pour vous répondre Sandrine, en fait les origines sont multiples et je demande à mes collègues de m'aider, de me compléter, mais on s'amuse souvent à remonter très très loin quand on parle de l'origine du graffiti. On s'amuse à partir même des grottes de Lascaux, vous voyez, le besoin de l'homme de laisser sa trace, de laisser trace de ce qu'il vit, de ses émotions, de ses rencontres. Et je pense à Brassailles aussi, qui dans les années 30 démarre un travail qui s'appelle Graffiti. Vous voyez, c'était le graffiti avant le graffiti tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et c'était quoi ce graffiti de Brassailles des années 30 aux années 60? C'était souvent les soldats qui partaient à la guerre et qui laissaient une petite trace, un petit mot à l'être cher ou un petit mot pour l'éternité. Donc c'est assez touchant. Ensuite, dans les origines plus contemporaines, elles sont multiples. Il y a le muralisme sud-américain quand même, il muralisme, où là peut-être on va être un peu plus proche de ce que vous évoquiez,
d'un
mouvement
marquer
d'un territoire, des quartiers, des blocs, etc. Et puis, enfin, l'origine du graffiti tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui a fait place à ce mouvement artistique dont on parle, qui fait suite à ce qu'on peut appeler le post-graffiti, c'est-à-dire le fait que ces praticiens en mode vandale, une partie d'entre eux sont devenus des artistes assumés avec ce statut d'artiste. Bref, cette origine-là, elle pointe New York 70, et avec, on en parlait tout à l'heure, un article fameux du New York Times en 73 qui se dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville de New York avec cette déferlante d'inscriptions et,
oui, c'était des inscriptions, ça a commencé par des écrits de lettres en fait sur les murs, on travaille la forme des lettres, Loki, c'était aussi votre...
Ce qui est intéressant, c'est un peu comme le DJ qui choisit de faire de la musique avec des platines, c'est-à-dire, et qui se dit au lieu, on va pas m'autoriser les clubs, je vais faire des block parties dans des terrains vagues. Donc en fait déjà des fois la frustration des outils crée des autres outils. Donc au début on a des, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une histoire de l'art complètement parallèle, il faut la juger comme telle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder ça en le comparant. Moi hier j'étais à l'expo de Cy Twombly à Beaubourg, on peut mettre des rapports entre ça et il est très dans l'écriture Cy Twombly, mais ça n'a aucun en même temps rien à voir. On part d'abord, moi j'étais par exemple, on va prendre mon cas, totalement ignorant de l'histoire de l'art quand j'ai commencé. Et dans les années 70, on a donc ces gens, il y a toujours les grands noms, Barbara 62, Eva 62, Taki, après Face 2 arrive, Face 2 est le dieu pour moi, c'est le dieu absolu. C'est le plus dur, j'essaye de lui parler, c'est très très difficile, mais c'est quelqu'un qui vraiment aux origines a tout amené, parce que on est parti de l'écriture manuscrite, après, vraiment il faut imaginer que c'est des gens qui ne savent pas. Et donc, il recrée finalement une histoire de la typographie, de la calligraphie. Il la révolutionne quelque part.
Et donc,
l'ajout des flèches, l'ajout des dynamiques. Et à la fin, il crée une dynamique. Et moi, quand j'arrive en 84-85, le gros du travail a été fait. Moi, en fait, ce que j'amène, c'est juste que je quitte les lettres. Et avec les formes des lettres, je crée des visages. Voilà. Mais en soi, c'est vraiment tout un cheminement très long. Et il ne faut pas simplement se dire... une petite bande de vandales qui est en train de s'amuser. C'est un travail très sérieux qui demande un vrai travail de recherche.
Un travail de préparatoire, des dessins préparatoires, on le voit dans votre livre, hein, Graffiti, Expression, Manifeste. On le voit.
C'est un vrai métier.
C'est un vrai métier, mais qui se pratique quand même d'une manière cachée. C'est le soir. Pas toujours, parce qu'en fait,
comme vous l'avez dit, on est à la lisière de la légalité. Alors, par exemple, il y a Zeus, vient de le raconter, il était dans l'illégalité, il est allé nettoyer. Quelque part, là aussi c'est intéressant cette expression graffiti propre, parce que pour moi c'est un graffiti illégal, mais pas illégal avec l'État, c'est illégal avec l'histoire lui-même du graffiti. Mais ça c'est encore un autre truc. Et puis il y a ceux qui sont dans les terrains vagues, et donc le terrain vague, est-ce que c'est l'illégalité, n'exagérons pas, la friche industrielle, le lieu abandonné, c'est intéressant. Mais Moi, je le raconte un peu dans le livre, c'est plutôt l'univers qui était le mien, que j'ai voulu retrouver dans ce livre. Alors, je voulais juste corriger, c'est pas que des Européens, il y a un Mexicain et il y a un Australien dans le livre. Et c'est vraiment, c'est juste, je veux souligner par là que c'est un mouvement de manière très impressionnante, mondialisé à un point. Et là, vous me parlez de Dakar, bon, je suis pas allé en Afrique, j'ai vu qu'il y avait des choses aussi dans les pays arabes. En Asie un peu, etc.
Donc, mais est-ce que vous pouvez avoir conscience que ça peut donner un sentiment d'insécurité, par exemple, dans les quartiers?
Dans les quartiers ou dans quel quartier? La question, parce que justement, alors on va revenir à l'idée du graffiti propre.
Zeus, on vous écoute, Zeus.
Non, mais j'entends bien, en fait, vous pointez un paradoxe, en fait. Il y a une ambiguïté qui s'opère entre un graffiti qui, d'un côté, peut susciter un sentiment d'insécurité, voire de salissure. Et il faut voir aujourd'hui, au bout du spectre, en fait, qu'on va aujourd'hui plutôt encourager des street artistes, des graffeurs, sur des projets immobiliers ou pour valoriser un quartier, pour donner un côté plus créatif, justement, encore une fois. Donc, de toute façon, ça reste intrinsèque, en fait, à cette pratique, comme à beaucoup d'autres choses. Il y a une ambiguïté qui s'opère.
En tout cas, c'est vrai que nos auditeurs le disent. Hein, franchement, ces personnes, ils vous remercient aussi, peuvent aider à l'embellissement de nos villes. C'est créatif. Tout ça ressort quand même dans la ville.
Je pense qu'il faut pas perdre de vue, en fait, le fait qu'au sein des pratiques du graffiti et en art aussi, enfin, tel que je le considère, il y a une notion de jeu qui s'opère. Faire du graffiti, c'est aussi jouer avec sa ville, c'est être dans sa ville, c'est faire corps avec sa ville, ou en tout cas, j'aime considérer la ville comme un corps vivant, et le graffiti peut dynamiser les choses dans ce sens. Mmh. Alors, il peut opérer comme un virus et être destructeur, mais il peut être aussi salvateur. Mmh.
En tout cas, vous avez vos œuvres, elles sont maintenant dans le château de Vincennes en ce moment, pour une exposition qui s'appelle « Noir et clair jusqu'à la fin du mois ». Et alors, oui. Là, ils vous ont donné carte blanche, on peut dire ça, et vous avez, pour le coup, dû jouer avec les vieilles pierres.
Oui, absolument. Oui. Oui, l'exposition a lieu actuellement. Alors, c'est une exposition qui a lieu dans un château. Donc là, on est aux antipodes du terrain vague, de la friche industrielle. C'est une expérience, en fait, de montage d'exposition et de réflexion aussi sur un lieu tout à fait intéressant. Alors, j'y montre des œuvres anciennes. Certaines œuvres ont été aussi réalisées l'année dernière, spécialement conçues pour cette exposition. Et donc on peut y découvrir des graffitis, d'ailleurs. C'est un château qui a eu aussi une fonction pénitentiaire. Donc certains prisonniers qui étaient des prisonniers lettrés, qui étaient des prisonniers qui se sont appliqués, c'est tout à fait visible, en fait, sur les murs du château de Vincennes, se sont appliqués à faire des graffitis avec de belles lettres, en essayant de faire passer des idées concises, mais poétiques, philosophiques. Et je trouve tout à fait intéressant, en fait, comme oui. lieu.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est que le château de Vincennes vous a donné carte blanche dans ce musée. Donc, on peut le voir, l'exposition Noir et Clair, jusqu'à la fin du mois. Et merci, en tout cas, d'avoir été avec nous depuis Berlin. Et il faut dire aussi que c'est une manière de redynamiser les musées, Nicolas Logéro-Lasserre. Hein.
Ouais. Oui, ce qu'il y a d'assez fascinant depuis, comme Locus le disait, peut-être une bonne dizaine d'années, ce sont les records de fréquentation qui s'opèrent autour de ce mouvement. Je prends sur en place ce terme de mouvement volontairement, même si, à la différence de beaucoup de mouvements artistiques, il nous manque probablement un manifeste. Vous voyez, on tourne souvent autour de ces questions. C'est compliqué de parler d'un mouvement avec autant de courants différents. Mais en tout cas, des records de fréquentation absolument dingues. Dès qu'il y a le moindre événement autour du mouvement, autour du street art, du graffiti, ce sont des dizaines de milliers de personnes. On pense au musée
de la
Poste.
Vous restez avec nous, hein, Nicolas Logéro-Lasserre. On va continuer dans 3 minutes. Locus également, vous restez avec nous. Zeus, on vous dit bonne journée à Berlin. Merci d'avoir été avec nous.
On se retrouve
dans 3 minutes. Après le flash, on ira à Dakar.
Découvrez une série de reportages.
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue à tous les voisins, les voisines, vous qui nous rejoignez. On parle du graffiti, du street art, de toutes les expressions qui naissent sur les murs de nos villes. Le street art fait aussi progressivement son entrée en Afrique, mais aussi dans les musées, les galeries et certaines œuvres atteignent des sommets. Alors comment cet art urbain est en train de devenir un art à part entière? Est-il en train de quitter les terrains vagues pour devenir un art officiel? Et comment ce marché de l'art se met-il en place? On attend vos questions, vos commentaires au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Nous sommes avec Lokis, donc un des pionniers du graffiti en France. Comment vous avez choisi votre nom, Lokis?
J'ai eu nombreux noms avant. J'ai eu Ken Rock, Cookie Push, j'ai eu tellement de noms, et même encore aujourd'hui je m'amuse à avoir beaucoup d'identités, mais surtout parce que, en fait, bon, je vais d'abord répondre à votre question. Parce que j'ai un
Lokis,
l'extrapolation est ma spécialité. Donc on va rester Lokis, c'est une nouvelle de Mérimée et c'est un loup-garou, et en fait j'ai rajouté un S. Bon, c'est évidemment Lokis, dieu du mal, frère de Thor chez les Vikings, ça je ne le savais pas, je l'ai découvert après. Vous savez, j'étais vraiment ignorant, donc Lokis, ça fait un peu lettré, mais en fait c'était sans doute pendant mes études scolaires, et voilà, c'est tout. Donc en fait j'ai rajouté un S pour faire un petit peu plus américain, parce que j'avais 15 ans, et donc je trouvais ça un peu plus fun comme ça, voilà.
D'accord, c'est marrant parce que tous les noms, effectivement, on sent que c'est très fort, hein, c'est très porteur, chacun doit être marqué. Oui,
oui, on appelle ça des blases, en fait, c'est le surnom de l'artiste, qui préserve aussi son anonymat, bien entendu, puisque cette pratique, dans son essence vandale, on le rappelait, elle est illégale, évidemment. Donc, elle est beaucoup plus tolérée, effectivement. On parlait tout à l'heure de zones un peu extra-urbaines ou de zones de chantier, etc. Elle est tolérée, mais évidemment, elle l'est moins parfois en plein centre-ville.
Oui, parce que c'est vrai qu'à l'origine, c'est quand même un mouvement rebelle, enfin, un peu contre la société. Enfin, on a l'impression que ça s'inscrit quand même là. Alors, vous avez publié Lokis, un graffiti expression manifeste chez... À quand?
Azan,
chez Azan. C'est un portrait de 15 artistes du continent européen, mais pas seulement. Vous nous avez parlé d'un artiste mexicain aussi.
Et un australien.
Ouais. Alors, il y a Tony Driver, Lee Wood, Antistatic. Alors, pourquoi vous les avez rassemblés ensemble dans cet ouvrage?
Alors, déjà, je ne l'ai pas fondé. Ma sélection, elle n'a pas été faite essentiellement sur des gens dont j'aime le travail. Évidemment, je ne le déteste pas. Mais j'ai voulu l'ouvrir beaucoup plus parce que déjà, j'aime pas spécialement les écrivains qui sont critiques littéraires. J'ai toujours un peu de mal avec des artistes qui jugent, même si évidemment, derrière les micros, tout le monde se juge, et surtout ce milieu qui est extrêmement concurrentiel. Tout le monde dit, il y a une expression qui est le toy. Le toy, c'est le mauvais graffiteur, mauvais writer. Et donc, évidemment, moi encore aujourd'hui, à 48 ans, j'utilise énormément cette expression. Je l'utilise aussi d'ailleurs avec des universitaires qui se glissent dans cette histoire et qui s'en font les champions. Je le glisse avec plus de gens, je dis, non, mais t'es un toy, tu ne sais rien. Alors maintenant, c'est devenu un terme général, je l'ai généralisé en fait. Et donc voilà, le choix s'est fait sur des gens qu'on m'a reproché, par exemple, l'absence de femmes. J'ai dit oui, mais mes critères de sélection étaient quand même au moins une quinzaine d'années dans ce métier-là. Une grosse évolution depuis une pratique extrêmement classique, parce qu'il y a déjà des académies, malheureusement, dans ce mouvement. Et je vais juste faire une parenthèse sur le nom. On peut choisir aussi des noms sur la qualité des lettres à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est un mauvais nom. Commencer par un L, c'est très difficile. Ça mène une dynamique interne. Et bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis sûr que les gens qui sont un peu spécialistes me comprendront ce que
non,
je veux dire.
Non, mais ça nous intéresse de savoir comment, effectivement, vous construisez votre travail.
Une des personnes les plus connues s'appelle Sin. Sin, c'est un nom très intéressant graphiquement, au niveau des logiques de. Le double E est parfait, en fait. On peut avoir une très bonne dynamique de lettres.
Et parce qu'il faut que ça pète, hein. On voit dans les dessins, en tout cas là, qui sont dans votre livre, hein, Graffiti, Lokis, ça pète. Enfin, il y a une sorte d'énergie qui sort de ces dessins.
Les couleurs, le choix des couleurs. C'est peut-être aussi ce qui est intéressant, c'est, j'allais dire, la brutalité, mais c'est pas, parce que là c'est tout de suite je virilise cette activité, c'est un mode d'expression, mais c'est vrai, c'est quand même, moi j'ai vu ça peut être choquant dans notre époque où on essaye, heureusement d'ailleurs, de prenez l'émancipation féminine, de toujours défendre le droit des femmes. N'empêche que moi j'ai vu des gens très talentueux qui étaient dans des terrains vagues. À l'époque on volait nos bombes.
Mais en quoi c'est une culture de mec, justement?
À l'époque on volait nos bombes. On pouvait se faire détruire dans les deux heures. On devait se défendre auprès d'autres équipes. On devait surveiller de ne pas se faire arrêter par la police. Tout ça, au bout d'un moment, c'était un peu fatigant pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à se défendre.
Et surtout à 15 ans, hein, je précise. C'est ça, parce qu'on voit que pour 99% d'entre eux, les graffeurs démarrent à 14, 15, 16 ans. Mais vraiment, c'est tout le temps, cette même histoire.
Une histoire de bande, une histoire de culture,
de crew,
d'être ensemble.
Ouais. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on peut imaginer que les demoiselles ont peut-être autre chose en tête que d'aller risquer de se prendre...
Il y a eu, à chaque fois, 2-3% de femmes, mais qui sont un peu des garçons manqués quand même. Qui sont, on va pas trop se frotter à elles. C'est quand même c'est pas des filles qui rigolent. Après, l'évolution, moi je vous parle essentiellement de la culture du writing, donc ce que vous appelez la culture du graffiti, mais là encore on va pas rentrer dans les détails. Mais il y a déjà des femmes à New York au tout début, Barbara 62, Eva 62, auxquelles j'aurais bien m'intéressé dans un second livre que je vais publier, parce que justement j'ai montré que je suis pas partial. Mais pour le coup, aujourd'hui il y a une grande féminisation, mais ça c'est le mouvement du street art, avec le pochoir, vous avez parlé de mystique, mais tout ça pour nous c'est une bande avait un quasiment ennemi. C'est tout ce qui n'est pas notre univers.
On comprend bien que vous ne faites pas partie du même monde.
Voilà.
Nicolas Logéro-Lasserre, avant de prendre Docta qui est en ligne avec nous, justement, c'est un terme un peu fourre-tout, street art. Qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a le collage, il y a le dessin, il y a le pochoir.
Bon, jusque-là, ouais. Tout allait bien. C'est là que maintenant les chemins... Ouais. Alors, non, c'est vrai que j'aime bien aussi rendre hommage... Il y a pour moi véritablement deux courants. Et d'ailleurs, dès l'introduction, vous voyez, de l'émission, vous nous parliez d'art dans la rue, de collage, de pochoir, Donc, il y a une multitude de choses et souvent les gens amalgament. Alors là, jusqu'à présent, on vient de parler quasi exclusivement du graffiti, de son origine, de sa pratique. Et parallèlement à ça, dans les années 80, on peut pointer même 85 en particulier, il y a tout un tas d'artistes. Alors, on n'est pas dans la démarche
des beaux-arts. Voilà,
exactement. On n'est pas dans la démarche de jeunes graffeurs dont on parlait, 14, 15, 16 ans, mais là plutôt de gens qui ont fait souvent des formations académiques ou pas, mais très souvent, et qui décident, pour X ou Y raison, on pourra développer, mais de poser leur art dans la rue. Et là, j'en cite, mais très vite, une petite flopée. On parlait de Mystique, Jérôme Ménager, les VLP, Vive la Peinture, Speedy Graffito, Jeff Aerosol, Moscow et Associés, Blake Lerat, et beaucoup d'autres. Vous voyez, 85, c'est quand même très ancien, ça date. Et là, il y a un deuxième courant qui s'opère, régi par d'autres codes, véritablement, en ce sens, on est tout à fait d'accord. Et ces gens vont laisser libre cours, à leur créativité et poser dans la rue, leur art tout simplement. Et donc aujourd'hui, encore 40 ans après, cohabitent ces deux courants, le graffiti dans son essence vandale, puis le post-graffiti, et puis en parallèle, cette pratique du street art, d'artistes de rue, en mode plus saltimbanque, si vous voulez, Et tout ça, ce mix, et c'est ça qui est fabuleux. Moi, j'aime
ce
les
mélange.
Deux courants.
Ouais.
Ouais, j'aime ce mélange. Ouais.
Alors, cet art entre aussi dans les villes africaines. Hein. Nous sommes avec Docta, en direct depuis Dakar. Bonjour, Docta.
Bonjour, Pablo.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous, parce que je crois que vous êtes très malade. C'était pas le bon moment et vous tenez à parler dans 7 milliards de voisins. Donc, merci beaucoup. Hein. Vous êtes artiste, graffeur sénégalais. Dakar, c'est une bonne capitale pour le street art en ce moment, en Afrique.
C'est une bonne capitale pour le graffiti. Pourquoi j'utilise le mot graffiti? Parce que nous, au Sénégal, je veux dire en Afrique en général, on utilise le graffiti déjà pour sensibiliser, conscientiser et parler des réalités de qu'on vit tous les jours. On ne fait pas des graffs pour faire nos blagues dans les rues, mais à chaque fois qu'on est devant un mur, c'est parler par rapport à une situation bien déterminée qui se passe dans notre quotidien. Et pour cela, on utilise différentes techniques. J'ai entendu parler des... souvent on nous dit « ouais, le street art ». Nous, on n'a rien contre le street art, mais pour nous, c'est une dérivée du graffiti que les gens ont voulu, canaliser, mettre dans une canale, dans une certaine lignée, pour pouvoir contrôler cette expression qui est libre d'expression et le donner un autre sens, c'est-à-dire qu'il faut faire ça parce que c'est ça qui vend, c'est ça que les gens aiment. Non, nous, on s'exprime par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on se ressent par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qu'on vit tous les jours.
Donc c'est vraiment un moyen d'expression et vous parlez de tout, hein. Vous parlez d'éducation, de santé, de politique. C'est vraiment une expression libre.
Oui, on parle
libre.
De tout. on se limite pas. Ce qu'on respecte, c'est les tabous qu'on a dans notre, dans notre tradition, dans notre pays. Il y a des choses qu'on ne met pas dans la rue. Et puis, quand on se met devant un mur, que si ce n'est pas sur l'autoroute, comme les highways, les murs sur lesquels on exprime qu'ils sont privés, on demande aux propriétaires, on n'a jamais eu de rejet par rapport à un propriétaire qui nous dit « Non, vous ne touchez pas à mon mur ». Non, on nous le donne avec, joie, et même, des fois, quand on a besoin de faire garder notre matériel pour revenir le lendemain, c'est eux qui le font, mais parce qu'ils comprennent la démarche qu'on a par rapport à cette expression-là, ils comprennent la démarche que le graphe, déjà, il embellit, on rend propre l'environnement, et quand on finit le graphe, il n'y a aucune personne qui va venir déposer des ordures ou transformer en urne noire. Donc la population s'approprie de cette expression, s'approprie de cette œuvre-là. Et donc, quand on voit, il y a pas mal de personnes qui viennent à Dakar avec, le style, ils font des pochoirs, ils se mélangent à nous, ça ne me dérange pas. Mais moi, dans ma conception de la chose, c'est des outils du graffiti que les gens ont dérivés pour en faire un autre mouvement, le mondialisé et tout ça, c'est bien. Mais ça n'empêche que le graffiti reste ce qu'il est. Et aussi, il reste sensible et très proche aux populations. Et l'expression qu'il a et la position qu'il a reste toujours propre.
D'accord. Donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que les habitants, par exemple, de Dakar, là où vous travaillez, ils sont vraiment ils sont heureux de vous voir. Enfin, ils vous lèguent leur mur en disant « mais faites-en quelque chose de beau ». Et c'est vraiment ça.
On nous demande, des privés nous demandent, ils nous viennent nous payer pour qu'on fasse... on travaille avec des sociétés de communication, on travaille avec, les ministères, parce qu'ils nous demandent, ils savent l'impression, cette expression... comment elle est sensible auprès des populations et comment les populations s'approprient de cette expression-là. Donc, ils nous demandent de faire des campagnes par rapport à différentes maladies, par rapport à différents projets. Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai un autre projet qui s'appelle Graphe et Santé, où j'ai réuni les médecins dans la rue pour des soins gratuits, des dons de médicaments, des tests et tout ça. Pour ces soins-là, nous, on n'a pas tous les données concernant cette maladie. On fait des ateliers avec ces agents de la santé qui nous donnent les informations et nous, plusieurs, on le transforme à des scènes de vie, à des lettrages et le poser sur les murs. Et c'est les propriétaires, ces gens-là qui vont aller se faire consulter, qui nous donnent leur façade de mur pour qu'on le fasse.
Ah oui, donc là, on est dans un moyen d'expression très, très éloigné de la manière dont on le pratique en France, Lokis.
Ah ben, moi, je trouve ça en même temps très beau, en fait, tout ce qu'il dit. Ça m'intéresse vraiment. C'est totalement une autre dimension et c'est intéressant parce que même. J'avais presque l'impression, moi, lui, il distingue vraiment, même si ça le choque pas, moi non plus. Hein. C'est vrai que si Nicolas parlait de 85, c'est vrai que c'était ménager, les personnages blancs de ménager, mystique. On va dire, on pourrait caricaturer que, parce que c'est pas aussi simple, on va dire que le graffiti relève plus de la culture hip-hop et eux relèvent beaucoup plus de la culture rock. J'allais dire blanche, oh là là, c'est peut-être ça, c'est pas bien, mais en tous les cas, c'est un autre univers. Et c'est intéressant parce qu'il distingue avec le street art, et on a l'impression que le street art, dans la bouche de cet artiste, c'est plus quelque chose qui est lissé et qui est plus docile et qui est finalement du graffiti propre, quelque part. Il faut pas se le cacher. C'est intéressant aussi sur la question d'être payé pour peindre, parce que aujourd'hui, par exemple, dans le 13e, j'ai vu un article dans Télérama qui était rapporté dans Facebook. Donc Facebook sert parfois à ça, parce que pour moi, ça sert pas à grand-chose.
C'est un mur aussi.
Voilà. Et en fait, le maire et je crois que c'est la galerie Itinérance, je connais son prénom, Mehdi, mais voilà, était presque content en disant. On ne paye pas les artistes de toute façon. Et ça coûte donc évidemment moins cher que de repeindre le mur en gris. Donc les gens les habitants du 13e ne peuvent être qu'être contents. Parce que, c'est gravissime quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit. Et j'en parlais la dernière fois lors d'une interview sur France Culture, c'est que on se sert de nous comme Karcher. Alors moi, j'ai été piégé à Bologne, en Italie, pour ça, et je le racontais, donc je vais pas raconter l'histoire, je vous invite à écouter le podcast sur... Mais c'est vrai que maintenant, en fait, on se sert de nous pour recouvrir des tags et des throw-ups, donc ce qui est considéré comme du vandalisme.
Oui, c'est une manière de passer des messages aussi.
Oui, non,
donc
mais
là,
oui,
effectivement, il y a aussi le problème de l'art dans la rue, c'est gratuit. Normalement, à Docta, il faut bien vivre aussi de quelque chose, donc là, c'est un moyen que vous avez trouvé.
Mais bien sûr, on est des artistes, on est des artistes, on est des créateurs. L'art, on ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas le chiffrer. C'est des fois au-delà de ça. C'est à l'artiste en tant que tel de dire que cette œuvre-là, je l'évalue à peu près à ça. Et à ce prix-là, celui qui aime, qui se retrouve en face de cette œuvre-là, qui adore cette œuvre-là, qui le place, c'est à lui de le payer. C'est à lui de sortir ses billes pour acquérir cette œuvre-là. Et acquérir cette œuvre n'est pas définitif. Parce que si vous allez sur les droits d'auteur, où il y a les droits de suite, parce que tu peux acheter le tableau de tel, après vous le revendez à une autre personne, il faut contacter l'artiste qui vous a vendu le tableau avant, vous lui dire je vends le tableau et il faut que tu vous reverses un pourcentage à cet artiste-là. Sinon, et aussi si le tableau est mal tenu chez vous, l'artiste le trouve chez vous, il a le droit de récupérer son tableau et de vous reverser quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que c'est notre art, c'est notre passion, mais c'est notre travail aussi. Je donne l'exemple. La première fois que j'ai mis les pieds sur Guggenheim, Muséum Guggenheim, j'étais le seul artiste graffeur, j'étais artiste graffeur. On m'a donné une surface de 12 mètres sur 6 mètres de large pour participer à une expo des designers, qui avait 250 designers. Ce que j'ai fait, on m'a payé, on m'a logé, on m'a nourri, mais j'ai mis ma passion dedans. Et pour moi, j'avais Banksy, je pense qu'il y avait Banksy qui était... exposé au deuxième niveau. Donc moi je suis en train de faire l'ouverture d'une expo sur Making Africa et il y avait un street art en haut. Mais pour moi, mon art, c'est ma passion, mais aussi c'est mon boulot. C'est avec ça que je vis, c'est avec ça que je vis, faire vivre ma famille, c'est avec ça que je fais tout autre dérivé que je peux faire développer dans mon travail. Et comme cela m'a permis de faire d'autres festivals en Afrique, comme au Bénin, au Togo, à Kinshasa, au Burkina Faso, comme Congo-Brazza, Kenya, Mozambique bientôt. Tout ça, c'est pour montrer à ces artistes-là, vous avez des outils, vous avez une expression qui peut servir aux populations dans deux choses. Oui. Conscientiser les populations qui peuvent développer des choses, mais aussi que vous, en tant qu'artiste, vous faire respecter et vous faire payer par rapport à ce que vous faites, et aussi cet argent que vous recevez, vous le remettez aussi dans la rue à montrer que même si on me paye, l'engagement que j'ai entre moi et la rue, je vais continuer à le faire.
Alors merci beaucoup Indocta pour avoir été avec nous en direct depuis Dakar. Je rappelle que vous êtes artiste graffeur sénégalais et que vous avez créé un festival aussi qui s'appelle Festigraf. Ça existe depuis 10 ans donc à Dakar. Alors c'est vrai que cette idée de vivre de sa passion, c'est bien beau, mais à un moment il faut aussi gagner un salaire, et ça fait partie aussi de la reconnaissance de ce street art, Nicolas Legéreux-Lasserre.
Oui, c'est vrai, parfois il y a
on passe commande maintenant, donc on passe commande à ces artistes.
Oui, on peut parler d'une forme d'institutionnalisation qui n'est pas toujours négative. Ça peut l'être, et on doit être prudent par rapport à ça, mais ça ne l'est pas toujours. Mais je voulais revenir sur la question du marché. Bon, je ne suis pas du tout le chantre du marché, c'est pas ce qui m'intéresse.
Vous êtes un collectionneur d'art urbain.
Oui, je le subis en fait. On a contribué, j'aime souvent dire qu'on a contribué à creuser notre propre tombe, c'est-à-dire en contribuant à tous, à un certain nombre, à l'émergence, à la reconnaissance du mouvement. Bah, aujourd'hui, on ne peut plus acheter les artistes qu'on aime. Mais pour revenir sur la question de ce marché, le marché, ce n'est pas diabolique. Au contraire, il permet souvent aux artistes de vivre de leur travail. J'aime bien parler il y a un travail de rue qui est gratuit par essence, en tout cas dans sa démarche libre, vandale.
Une forme d'exposition à tous.
Voilà,
à tous les
il y a
regards.
Un travail de rue qui est un travail aussi de commande. On peut parler d'institutionnalisation, on venait de le dire, de mairie qui commande ce travail. Alors, effectivement, j'aime mieux l'interpréter comme une maladresse, cette interview de Mehdi. Parce que c'est quand même un très beau travail qui est fait dans ce 13e. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de se dire que ça offre une visibilité, une vitrine aux artistes et que ça leur apporte beaucoup plus qu'un simple cachet symbolique à 1000 ou 2000 euros. Mais moi, je crois qu'il faut les deux. Il faut et un cachet, et tant mieux si ça amène une visibilité. Mais tout ça pour dire qu'il y a ce travail de rue, je termine, et en parallèle, un travail d'atelier. Mmh. Comme n'importe quel artiste depuis des siècles, notre mouvement n'y échappe pas. Travail de rue, libre ou en commande. Et puis en parallèle, travail d'atelier qui, effectivement, ce travail d'atelier, peu importe le support, va rentrer dans un marché, va être vendu, va permettre aux artistes d'en vivre.
Alors comment le street art est devenu une véritable expression artistique avec son marché en pleine expansion, on continue après Funky Street de Arthur Conley.
be the bad boogaloo. We used to be the swing sing-a-ling. Four used to be the funk.
Les voisines, on continue. Longtemps, les graffitis ou autres peintures urbaines ont été considérées comme du vandalisme, mais c'est fini. Cette époque-là se développe maintenant un marché de l'art urbain, du street art à Paris. Il y a des galeries, un musée même qui a été ouvert grâce à vous. Ça s'appelle Art 42 Urban Art Museum, mais c'est barré. Donc c'est un anti-musée, Nicolas Legéraud-Lasserre, que vous avez ouvert. Alors, on est passé donc de la peinture gratuite dans les rues, interdite. On est maintenant dans les musées. Comment s'est fait cette reconnaissance? Comment on en est arrivé là?
Je pense que en premier lieu, c'est je crois qu'il y a un ADN en fait autour du mouvement. Son ADN, c'est la rue, c'est la gratuité, c'est souvent un côté militant, hein, des choses à dire. L'artiste qu'on avait en ligne en parlait
Docta.
Très bien. Voilà, il en parlait très bien. Hein. Pour moi, c'est une des genèses de l'art. C'est ça, c'est dire des choses. Et très sincèrement, je ne sais pas si on va se retrouver là-dessus, mais moi, j'en pouvais plus de cet art contemporain élitiste, abstraction, conceptuel, qui ciblait 0,1% des gens, dans une spéculation internationale. Mais c'est pas de l'art pour moi. J'ai pas d'intérêt avec cet art-là. Là, dans ce courant, graffiti, street art, eh ben, c'est accessible à tous. Ça amène un regard différent de la société. Moi, souvent, ces artistes, ben, ils m'éclairent, ils m'amènent vraiment des choses, et je crois que c'est ça qui touche les gens, et c'est ça qui crée une forte popularité et un engouement. Voilà mon sentiment.
Alors, Loki, c'est vous, votre ligne, elle se trouve où? Parce que l'art urbain rentre dans un musée, ça vous défrise un peu, non?
C'est assez complexe.
Ouais.
Parce que d'un côté, je peux être un commissaire d'expo pour amener des artistes qui viennent du Louvre et qui sortent, qui travaillent sur toile. Je privilégie, c'est très rare, des artistes qui, je vais pas mentir comme moi, qui peuvent faire quelque chose dans la rue et qui font quelque chose de très différent quand ils changent de contexte. C'est un écosystème, le graffiti. Il y a vraiment, on n'est pas du tout dans le même système. Donc, quand on change de contexte, on change d'expression pour moi. Et en plus, moi, j'ai développé jusqu'au point de faire de la vidéo, de l'interactive, de la peinture, de la sculpture. Donc, ça, c'est allé très, très loin. Tout ça, non, moi, je voulais juste finir parce qu'on a peu de temps. C'est que ce qui me choque le plus aujourd'hui et qui amène, c'est parce qu'en fait, il y a une très mauvaise connaissance historique, et j'écris ces livres pour ça, qui a accompagné en fait cette énorme spéculation. Et ce qui me choque le plus aujourd'hui, et c'est ce que je vois de plus en plus, c'est qu'on légitime parfois des artistes, ou qu'on met en valeur des artistes qui historiquement sont des zéros, n'ont jamais rien apporté, mais qu'on fait un plan com lié à leur activité et qui finissent à la Villa Médicis, je donne pas de nom, qui sont légitimés par des très très grands prix dans une vente aux enchères, mais on sait que c'est complètement fabriqué. Le milieu du graffiti, il y a une hiérarchie interne. C'est-à-dire qu'on est toy. Après, on commence à monter en grade et on finit king si on a renouvelé le style ou si on a peint 600.
Donc c'est une reconnaissance par les pairs, alors?
Voilà, c'est une reconnaissance interne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la reconnaissance, elle se fait de manière externe. Elle se fait ou par la valeur marchande ou par des espèces d'escroqueries ou de révisionnisme historique. Là encore, on va pas rentrer, on a juste 3 minutes. Mais en plus, je vais finir sur des notes négatives. On va encore me dire Lokis, c'est toujours Lokis. Donc, je vais pas faire de réquisitoire. Mais c'est vrai que c'est assez choquant.
Mais est-ce que vous trouvez que ça perd son âme quand on entre dans un musée, quand on travaille dans un atelier, alors, quand on nous fait des commandes
Là, c'est encore. Il y a deux choses différentes. Ouais. J'en parlais avec Nicolas Lodurolacer, parce que tout le monde attend que je vais détruire Nicolas Lodurolacer pour certaines choses. Et non, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont proches de ce que je pratique avec certaines galeries. J'invite des artistes qui ont leur toile et je dis accroche-les sur un mur, c'est pas inintéressant. Des fois, je me tais parce que c'est pas assez différent de ce qu'ils font dans la rue. Je me dis quand même, c'est intéressant. Ça fait 15 ans qu'il fait ça. Mais ce qui me choque le plus, c'est plutôt le projet de la Tour 13. Je reviens toujours au pauvre 13e arrondissement, j'ai l'impression que je m'acharne. Et par exemple, le projet Lascaux. J'ai un vrai problème avec le projet Lascaux. Là aussi, ce n'est pas un réquisitoire que je vais monter, mais recréer le projet Lascaux, c'est peindre les sous-sols du palais de Tokyo. Là aussi, ce n'est pas payé, hein, il faut quand même le noter. Alors, il paraît que tous les artistes, personne n'est payé, même les artistes qui sont au rez-de-chaussée, au premier, les heureux privilégiés. Je finis. Mmh. Et ça, c'est choquant parce qu'en fait... au lieu que on est dans un musée hors cadre, dans un musée de terrain vague, là, en fait, le musée devrait se déplacer et changer son langage pour entrer dans un terrain vague. Non, une fois de plus, pour être accepté, il faut accepter le langage du musée, quitte à créer une fiction de terrain vague dans un musée.
Voilà. Merci beaucoup, hein, Lokis, pour cette intervention. Vous avez publié Graffiti Expression Manifeste chez Azan. Nicolas Lugiro-Lasserre, on va voir le musée, l'anti-musée, toujours.
Oui, mais en tout cas, vous avez vu à quel point c'est passionnant. Mmh. C'est passionnant et j'encourage les gens à s'y intéresser parce que et à en être, parce que c'est vraiment fabuleux. Après, c'est vrai, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. J'aime bien le voir moitié plein, mais c'est fascinant en tout cas. Voilà,
merci beaucoup. Merci pour ce débat. Demain, on parlera gris-gris, sorcellerie et chat noir. Pourquoi sommes-nous superstitieux ? À demain. Portez-vous bien.
Au revoir. Merci.